que nous sommes depuis deux dimanches en train de nous poser la question, comment un chrétien peut-il être utile dans la maison de Dieu? Et nous allons terminer aujourd'hui ce chapitre 2 en posant la même question et trouvant la réponse dans le verset 25 et 26. Nous lisons d'abord ce passage, juste 2 Timothée 2, versets 25 et 26. En parlant à Timothée, le conseil de l'apôtre Paul dit « Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » Verset 26 « Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Donc ce passage nous montre, en réponse à la question « Comment un chrétien peut-il être utile dans la maison de Dieu ?» Je vois là, au verset 25, « En agissant avec douceur avec ceux qui s'opposent aux serviteurs de Dieu. » C'est Timothée, ici, pasteur de l'église d'Éphèse. « En agissant avec douceur avec ceux qui s'opposent à vous. » Il est dit, il doit redresser avec douceur. Et j'aimerais bien souligner le mot en grec traduit par douceur ici, c'est le mot praotes. Toujours quand on étudie la Bible, pour comprendre la portée d'un mot, il faut regarder dans son contexte et surtout utiliser dans divers passages. Et c'est ce que nous allons faire rapidement. On va regarder dans quel passage il cite ce mot et dans le contexte de ce passage, tirer des applications pour nous. C'est ce que nous allons faire. Ce passage, nous le voyons dans Galates 5, 22. Un passage clé que nous connaissons tous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Vous voyez, praotes, la maîtrise de soi. Il est parlé ici du fruit de l'esprit. Vous savez que lorsque l'Esprit produit le fruit, à qui revient la gloire? À Dieu. Et lorsque l'Esprit produit le fruit dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un croyant, parfois il n'est même pas conscient de sa spiritualité qu'il est en train de rayonner du fruit de l'Esprit dans sa vie, mais les autres le voient. Ça, c'est lorsque l'Esprit produit le fruit dans la vie de chrétien, c'est pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Mais, il faut faire cette nuance, lorsque la chair est à l'œuvre, alors la personne est fière d'elle-même et se réjouit des compliments qu'on lui adresse. Vous voyez? Quand l'Esprit produit le fruit, la gloire revient à Dieu. Et la personne ne s'en rendait même pas compte. Les autres voient. C'est comme Moïse descendu du mont Sinaï, son visage rayonnait. Et nous lisons, tout le monde le voyait. Quelque chose se dégage de son visage suit après cette rencontre personnelle avec Dieu. Donc l'œuvre de l'Esprit consiste à nous faire ressembler à Christ pour sa gloire, n'est-ce pas? Et non pas pour recevoir les éloges des hommes à notre égard. Et c'est important, le fruit de l'esprit dans la vie des croyants, parce que vous savez, les gens autour de nous sont affamés de tout le fruit qui est cité ici. Et lorsqu'ils les trouvent en nous, ils savent que nous avons quelque chose qui leur manque. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Oui, parce que l'Esprit, nous laissons le contrôle à saisir notre vie et à diriger notre vie. La question, voulez-vous vous soumettre au Saint-Esprit pour le laisser agir dans votre vie? Pour que la douceur, praotes, rayonne de votre vie. Et que ça puisse amener les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur à dire, je veux de cela pour ma vie, mais par quel chemin? Par Jésus-Christ. Une fois le problème du péché réglé, cette personne-là aussi a l'Esprit de Dieu qui peut produire dans sa propre vie le fruit de l'Esprit. C'est important. Nous allons regarder aussi que ce mot « praotes » est utilisé en Galates encore, chapitre 6, qui suit, verset 1. Regardez bien le contexte dans lequel il est utilisé. « Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Quel est le contexte? L'esprit de douceur doit être manifesté dans le contexte de redresser. Et le mot redresser, c'est utilisé en orthopédie, c'est le fait de remettre sur pied quelqu'un pour le rétablir. Et ici, surpris en faute, c'est tomber dans le péché. Ça, c'est le contexte. Ça vous est-il arrivé d'avoir une jambe cassée, n'est-ce pas? Vous savez combien il est douloureux de réduire la fracture et de remettre sur pied. Beaucoup de temps de rééducation, n'est-ce pas? Avec tout ce que ça vous contraint dans votre quotidien. Oui, le chrétien qui est tombé a besoin d'être rétabli comme celui qui a la jambe cassée. Les frères, je dirais, guidés par l'esprit, qualifiés de spirituels, et c'est intéressant de remarquer que c'est au pluriel. D'après ce passage, doivent se rendre compte de leur propre faiblesse. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Dans ce cas, alors, il adopte une attitude d'humilité et agit avec un esprit de douceur. Il n'est pas là pour juger ce frère, ni le mépriser parce qu'il est tombé, mais de le remettre sur la bonne voie, le remettre sur pied spirituellement. Et le but de ceux qui sont spirituels n'est pas de mépriser celui qui est tombé, ni de le juger, mais de le redresser. J'étais attiré par le pluriel. Je dirais, Seigneur, qu'il y aura aussi dans cette petite assemblée, par la grâce de Dieu, des hommes remplis de telles qualités qui rayonnent la douceur envers autrui. Regardons encore ce mot, il est utilisé dans 2 Corinthiens 10, verset 1. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Il est affecté maintenant, et la douceur, la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Quel est le contexte? Ici, Paul est accusé par ses détracteurs. Et dans le verset que nous lisons, un de leurs arguments pour attaquer la personne de Paul, c'est de dire, oui, quand il est écrit, il est à distance, loin de nous, il montre comme s'il était courageux et fort. Mais quand il est présent, face à face, les yeux dans les yeux, c'est un homme faible. Il dit même, il n'a pas d'éloquence. Il n'est pas éloquent. Ça n'intéresse personne ce qu'il dit. Vous voyez. Le problème, c'est qu'il juge le ministère de Paul ou son apostolat avec des critères charnels, humains. L'éloquence. Savoir persuader, impressionner. Non, non, non. Et comment Paul adopte une attitude ici? Il dit, je préfère me mettre en pratique la douceur de Christ. Parce que les Corinthiens ignoraient que la véritable puissance spirituelle réside dans la douceur. Et c'est pour ça qu'il dit, je vous prie par la douceur. Il exhorte par la douceur. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de force. La puissance contrôlée, comme nous l'avons dit la dernière fois. J'aimerais juste tirer un principe ici, c'est important. Vous voyez dans la parole de Dieu, quand l'attaque porte atteinte à l'évangile, vous voyez toujours Paul, il est sévère. Et souvent, ses paroles sont très très dures. envers ceux qui attaquent l'évangile. Rappelez-vous, aux Galates, il dit, aux Galates dépourvus de sens. Aux Philippiens, nous avons eu des séries de messages sur l'épître aux Philippiens, envers les judaïsants, il les qualifie de chiens, de mauvais ouvriers, de faux circoncis. Vous voyez? Jésus, pareil. Quand on s'attaque à la maison de Dieu, quand nous le faisons à une maison de trafic, combien il était sévère. Quand on place la tradition au-dessus de l'autorité de la parole de Dieu, combien Jésus était sévère. Face à l'hypocrisie des religieux pharisiens, combien il était sévère. Donc vous voyez, quand il s'agit d'attaques portées à l'évangile, l'apôtre Paul, Jésus lui-même, montre l'attitude de fermeté pour l'honneur de l'évangile, pour la défense de l'évangile. Mais par contre, ici, dans notre contexte, quand il s'agit de porter atteinte à la personne, l'attaque vise la personne, qu'est-ce que Paul nous montre? La douceur. Ça, c'est ce qu'on apprend ici. La douceur de Christ. Et lui-même, Christ, rappelons-nous, c'est l'homme qui s'est dit, je suis doux et humble de cœur. Face aux attaques injustes, en la personne de Jésus, nous lisons, injurié ne rendit point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ça, c'est l'attitude de celui qui met en pratique le mot praotes, la douceur. Ce mot est utilisé dans l'autre passage de Timothée 2, verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Comment un chrétien peut-il être utile dans la maison de Dieu? En étant doux avec ceux qui vous opposent. Redresser avec douceur, je dirais, à ceux qui vous opposent, demande beaucoup de patience, n'est-ce pas? Beaucoup de patience. Et l'idée biblique concernant la patience, c'est celle de demeurer tranquille sous le poids du fardeau, de l'attaque. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas laisser les circonstances vous contrôler. Et on a besoin de ça. Dieu, à travers diverses circonstances qu'il permet dans notre vie, laisse pour nous apprendre à être patients sous le fardeau. Dans le but que nous ne nous laissions pas être contrôlés par les circonstances. Et c'est cela qui nous aidera à être patients devant qui s'oppose à nous. Comment? Dans la confiance, dans la souveraineté de Dieu, dans sa sagesse, dans sa bonté, qu'il est au contrôle de toutes choses. Et s'il permet que de telles personnes croisent notre chemin, il est au contrôle de toutes choses. En d'autres termes, ce qui nous aidera à être patient devant les attaques, devant ce qui s'oppose à nous, et notre confiance en ce que rien n'arrive au hasard dans la vie, dans notre vie, même cette attaque, cette opposition, parce qu'il fait partie du plan parfait de Dieu pour ma vie personnelle, pour ma sanctification. Frères et sœurs, ne laissez pas les circonstances vous contrôler. Mais face à ces circonstances, confiez-vous totalement dans la souveraineté de Dieu qui a permis dans votre vie ces circonstances, parfois désagréables, et ça peut durer. Mais Dieu l'a taillé pour vous, selon son plan parfait, pour que vous ressembliez à Christ. Ça, c'est le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Même un contexte difficile, Timothée, face à des gens dans l'église qui s'attaquent à son pasteur. Nous l'avons montré déjà depuis, même à l'introduction de cet épître, combien ce jeune pasteur était attaqué. Mais Paul dit, reste là, c'est ta place là. Et Paul est en train de l'armer avec des conseils très pratiques que nous avons vus en revue depuis deux semaines. Comment un chrétien peut-il être utile dans la maison de Dieu? En regardant au but visé par Dieu qui permet l'opposition et les troubles dans nos vies. En regardant au but visé par Dieu qui permet l'opposition, les troubles dans nos vies. Et si Paul nous donne la raison du pourquoi redresser avec douceur les adversaires, il va maintenant expliquer à Timothée pourquoi tu dois être patient et pourquoi tu dois redresser avec douceur les adversaires. Oui, parce que selon Paul, ses adversaires, ces personnes qui prennent plaisir à porter atteinte à la personne et au ministère pastoral de Timothée, ces personnes ont besoin de trois choses que nous allons regarder rapidement. Ils ont besoin de se repentir. Ils ont besoin d'être dégagés du piège du diable. Ils ont besoin, par contre, de revenir à leur bon sens et d'être dégagés du piège du diable. Trois choses. Donc, regardons succinctement ces trois points rapidement. Redresser avec douceur ceux qui s'opposent à vous. Donc, face à l'opposition dans l'Église, Dieu dit, dans l'Église de Dieu, Paul conseille Timothée d'être patient et prier que Dieu leur accorde la repentance. Regardez le verset 25. Dans l'espérance que Dieu leur donnera, suppose très bien qu'il y a une prière qui a été faite, et on attend que cette prière soit exaucée, Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Remarquez, qui les amènera à se repentir? C'est Dieu. C'est Dieu. Ce ne sera pas Timothée. Ce ne sera pas nous qui va réussir à persuader quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une affaire de cœur. Et pour changer un cœur, il faut un miracle surnaturel. Et c'est Dieu seul qui peut le faire. Vous voyez? Dieu seul qui peut nous changer. Et c'est là que notre foi et notre espérance doivent reposer lorsque les conflits, l'opposition s'élève dans l'Église. C'est Dieu seul qui peut changer de telle personne. Quel est alors notre rôle? À retenir, être patient et prier que Dieu leur accordera la repentance. Voilà. Face à l'opposition dans l'Église, dans l'Église de Dieu, Paul dit à Timothée, soyez patient et priez qu'ils reviennent à leur bon sens. Vous voyez le verset 26? Et que, revenez à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Intéressant que l'expression revenez à leur bon sens, dans le grec, c'est un seul mot. En français, il est traduit, hein? Revenez à leur bon sens. Un seul mot, en anépho, littéralement veut dire se dégriser. Se dégriser. Redevenir sobre. Donc, vous comprenez par là que ce mot décrit un homme qui est saoulé, qui est ivre, n'est-ce pas? Sort des vapeurs de l'alcool. La question, mais il doit être sobre de quoi au juste ici? Je dirais de l'intoxication, d'amertume, de conflit, d'orgueil, d'égoïsme, de fausse doctrine, et la liste est longue. J'aime beaucoup ce que disait John MacArthur en commentant ce verset 26. Il dit ici, l'effet destructif de la fausse doctrine et du péché engourdit la conscience, confond la pensée, ronge les convictions et paralyse la volonté, je dirais, à l'image des effets de l'alcool sur les personnes ivres, n'est-ce pas? C'est c'est un peu effrayant, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez pouvoir changer de telle personne?
Non.
Pourquoi? Parce que le bon sens doit être éveillé. C'est l'objet de la prière. Et la volonté de se dégager du filet du diable doit se manifester. Est-ce que vous avez le pouvoir de faire ça?
Non.
Ce n'est pas à notre portée. Nous n'avons ni la capacité ni les moyens. Qui peut le faire? Dieu seul. Dieu seul peut le faire. Alors, dans cette circonstance, quelle est notre responsabilité? Soyez patient et priez. C'est ce que Timothée doit apprendre. Face à l'opposition dans l'église de Dieu, Paul conseille à Timothée, soyez patient et priez afin que ses ennemis se dégagent des pièges du diable. Vous voyez au verset 26, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. La question qui se pose, est-ce qu'un chrétien qui a l'Esprit de Dieu peut être démonisé? Est-ce que c'est ça qu'enseigne ce verset? Est-ce que il peut être aussi le demeure du diable? Non! Impossible. Impossible. Jésus avait, à ce sujet, parlé d'une maison où il y a deux maîtres. C'est pas possible. En parlant de Satan, parce qu'on lui a suggéré que Jésus fait un miracle à cause de la puissance de Belzéboul. Et Jésus répondait, non. Si c'est avec le pouvoir de Satan, c'est pas possible parce que c'est pas l'Esprit de Dieu qui le fait. Impossible. Donc le sujet ici, qu'on soit clair, le chrétien ne peut pas être démonisé, être un habitat ou une demeure de Satan, du diable. C'est pas ça ce qui est enseigné ici. Quelle est l'implication pour nous de ce passage? Ici, comme des hommes ivres sous l'emprise de l'alcool, avez-vous vu quelqu'un ivre sous l'emprise de l'alcool? Qui le contrôle? L'alcool. Est-ce que sa raison est saine? Est-ce qu'il est maître de lui-même? Pas du tout. Il se croit parfois être fort. N'est-ce pas? Et alors, comme des hommes ivres sous l'emprise de l'alcool, les égarés sont aussi incapables de se libérer du piège du diable. C'est ce que dit ce passage. Le piège, là. Deuxième implication, ce passage nous montre que le péché est plus fort qu'on ne le pense. Et même un croyant peut y tomber et être trompé à devenir l'outil du diable, même en étant en plein milieu de l'église. Ces gens, ces faux enseignants, étaient dans l'église où Timothée est pasteur à l'Éphèse. Donc attention, qu'il est clair, il ne s'agit pas d'être un demeure où Satan prend le contrôle de la vie de la personne. Non. Être un instrument tombé dans le piège. Et c'est ça ce que dit ce passage. Attention. Nous ne sommes pas à l'abri d'être un instrument comme ces gens-là et devenir l'outil du diable en étant même en plein milieu dans une église. Mais, quelque chose que je trouve magnifique dans ce passage, et on va terminer par là, c'est que même pour ces personnes, il y a un espoir. Avez-vous lu ça dans le passage? Pour ces faux enseignants rebelles à la parole de Dieu, s'attaquent à la personne de Timothée, le pasteur, il y a un espoir parce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils se repentent. C'est l'objet de la prière. Soyez patients, priez à ce que Dieu le remène à la repentance. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Il y a cet espoir qui se repent et retourne à faire la volonté de Dieu. Oui, frères et sœurs, ça fait trois dimanches, donc, nous avons vu des conseils très pratiques et clairs à comprendre dans ce passage de 2 Timothée 2, du verset 20 à 26. Si nous sommes intéressés sérieusement pour être utiles dans la maison de Dieu. Comment pouvez-vous être utile dans la maison de Dieu? Rappelons-nous, en se conservant pur. Je vous ai montré l'image de cet petit animal, l'hermine, qui est l'emblème de Anne de Bretagne. Préfère mourir que de se salir. Se conservant pur. Comment pouvez-vous être utile dans la maison de Dieu en repoussant les discussions vaines qui entraînent la division? Un serviteur de Dieu n'est pas là pour gagner des points ou gagner une dispute. Non, il est là pour gagner des âmes et le retirer de l'erreur là où il se trouve, pour que ces personnes arrivent à la réponse. Comment pouvez-vous être utile dans la maison de Dieu en mettant en pratique la douceur? Comment pouvons-nous être utiles dans la maison de Dieu? Par l'enseignement de la vérité contre l'erreur. Comment pouvons-nous être utiles dans la maison de Dieu? En étant patient avec ceux qui vous opposent. C'est ce que nous venons de voir. Et en regardant au but visé par Dieu, par le biais de l'opposition, du trouble même. Vous dites, oh là là, waouh, c'est beaucoup, c'est trop. Pas possible. Seul conseil pour nous tous, c'est possible. Si Paul et la parole de Dieu nous est laissé écrit noir sur blanc, c'est possible. À condition de tourner le dos à la chair et commencer à marcher selon l'esprit. La clé est là. Tourner le dos à la chair. Et marcher selon l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement le volant, le contrôle, la direction de votre vie, laissez-le sous le contrôle de l'esprit de Dieu. Ça, c'est la clé. Et tout devient possible. Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ça. Quand on veut marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce ne sont pas que des mots. C'est des choses vraies quand on les mettra en pratique. Il dit, si nous vivons par l'esprit, d'accord, c'est une bonne chose, mais marchons aussi selon l'esprit. Je cite Galates ici, hein, chapitre 5, du verset 16 à 26. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Oui, mettons en pratique chaque jour la parole de Dieu. Et par sa grâce, on peut être un instrument utile et fructueux dans la main du Dieu vivant. Oui, soyons utiles dans la maison de Dieu. C'est le plan qu'il a et le projet pour chacun d'entre nous. Amen.